11h passé de 3 minutes sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne. Bienvenue, chers auditeurs, si vous nous rejoignez. Alors, cette émission s'inscrit dans notre partenariat avec l'INSERM. Accueillir notre invitée, Marianne Latinus. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes chargée de recherche INSERM en neurosciences cognitives et vous travaillez notamment sur la perception de la voix dans le trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que vous voudriez nous dire quelques mots sur cette unité de recherche iBrain?
iBrain, c'est une unité de recherche, qu'on dit une unité de recherche mixte, puisqu'elle a une double tutelle. Donc, elle est en gestion, enfin, pas vraiment en gestion, mais par l'Université de Tours et par l'INSERM. Et on a des recherches qui vont de la psychiatrie jusqu'au développement de technologies pour étudier notamment le cerveau et puis d'autres choses aussi. Donc il y a 3 équipes de recherche, une équipe plus dédiée aux technologies, une un peu sur la génétique et une sur la psychiatrie neurofonctionnelle. Moi, je suis dans l'équipe psychiatrie neurofonctionnelle.
Et alors, on trouve donc évidemment des chercheurs, mais peut-être qu'il y a des doctorants aussi.
Alors, dans une équipe de recherche, il y a donc les chercheurs qui sont à 100% dédiés à la recherche. Donc ça, c'est les chargés de recherche. Il y a les maîtres de conférences, donc les enseignants-chercheurs et professeurs d'université. Donc enseignants-chercheurs, c'est maîtres de conférences et professeurs d'université qui, eux, ont un 50% de temps de recherche et le reste du temps font les enseignements à la faculté. Il y a des cliniciens qui sont des médecins et qui font aussi, soit ils sont surtout cliniciens, d'autres qui sont aussi professeurs des universités en même temps. Et puis après, il y a des techniciens, des agents administratifs. Il y a des étudiants en thèse, donc effectivement des doctorants. Et après, il y a des étudiants en master à différents niveaux qui viennent faire des stages plus ou moins longs.
Et si on a envie de faire un stage dans votre unité, comment...
On envoie un mail à l'adresse mail de l'unité qu'on peut trouver sur Internet.
Voilà, qu'on mettra évidemment dans le podcast de cette émission. Avec nous en studio, il y a également Claudine. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Claudine, tu es notre stagiaire à l'école des Beaux-Arts. Puisque nous sommes sur une radio étudiante, Marianne Latinus, peut-être voulez-vous déjà expliquer à nos auditeurs comment on devient chargé de recherche à l'INSERM en neurosciences.
Oui, bien sûr. Donc du coup, moi j'ai fait des études de biologie. Alors on n'est pas obligé de faire des études de biologie, il y a pas mal de gens qui font de la psycho aussi qui arrivent en neurosciences. Et puis jusqu'au master, et puis ensuite j'ai fait une thèse de neurosciences. Donc j'avais fait tout ça à Toulouse. Et ensuite je suis partie en post-doctorat à l'étranger, donc c'est des contrats de travail à durée déterminée. Donc je suis restée 4 ans en Écosse, puis après j'étais 1 an et demi aux États-Unis. Ensuite je suis revenue en France, et ensuite là, pour devenir chargée de recherche, il faut passer tous les concours de la fonction publique. Ce sont des concours très sélectifs. Ils prennent 5-6 personnes par an sur la France entière. Il y a à peu près 120-130 candidats. Et du coup, j'ai passé ces concours plusieurs fois jusqu'à les obtenir en 2019.
Et alors, pourquoi avez-vous choisi ce domaine de compétences?
Pourquoi les neurosciences?
Oui.
Parce que c'est... En fait, je me suis toujours intéressée à savoir qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est, en fait. Enfin, qu'est-ce qui permet à l'homme, pourquoi l'homme il est différent, pourquoi on est tous différents, et malgré le fait qu'on fonctionne tous de la même façon, et donc c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, à un moment donné, je me suis posé la question entre la génétique et la neuroscience, et puis j'ai choisi la neuroscience, et, parce que c'est vraiment ça la question qui m'intéressait.
Et alors, neurosciences, mais vous travaillez sur l'autisme. Donc pourquoi avoir choisi en plus ce sujet-là?
Alors je travaille sur l'autisme depuis 5-6 ans. Au départ, je travaillais chez les sujets sains, donc je faisais des études de recherche complètement fondamentales afin de comprendre la perception des stimuli sociaux, donc les visages, les voix, comment on les intègre chez les sujets adultes neurotypiques. Et puis en fait, comme ces processus sont perturbés dans l'autisme, ça m'a poser des questions sur effectivement qu'est-ce qui se passe dans l'autisme, et on peut à la fois apprendre des choses sur ce qui se passe chez les personnes neurotypiques en étudiant la pathologie, et aussi du coup le but c'est d'aider les personnes avec autisme de comprendre ce qui dysfonctionne, pourquoi ça dysfonctionne, et essayer de les aider au plus possible. Donc c'est
Est-ce que vous voulez préciser pour nos auditeurs ce qu'on appelle une personne neurotypique?
Alors neurotypique, c'est le mot qu'on utilise. Alors ça dépend des pour décrire les personnes de la population générale qui n'ont pas d'autisme, parce que certaines personnes autistes ne veulent pas qu'on dise que elles sont disent que en fait c'est les personnes de la population générale qui sont qui ont un fonctionnement typique, et que eux, ils sont juste un fonctionnement qui est différent. Donc c'est neurotypique, c'est le terme pour parler des gens de la population générale.
Voilà, donc l'idée c'est aussi de dire qu'il y a des fonctionnements et qu'il n'y a pas forcément un fonctionnement normal et un fonctionnement
voilà,
qui serait anormal.
Voilà, c'est ça, ouais, pour dire exactement.
On comprend aussi là, c'est de dire alors que finalement les personnes avec autisme ont un fonctionnement particulier, mais pour autant ce n'est pas une maladie.
Bah, c'est difficile de répondre à cette question parce que... Ça, c'est un peu un débat philosophique qui, je pense, est encore assez, qui est encore très présent à l'heure actuelle. Et puis, je pense qu'on ne va pas s'en sortir parce que l'autisme est tellement quelque chose de très vaste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de troubles du spectre de l'autisme. On a des personnes qui sont effectivement qui ont un fonctionnement différent, mais qui fonctionnent assez bien dans la société, qui arrivent à s'adapter un petit peu. Mais il y a des personnes qui ne sont pas du tout comme ça. Donc pour les personnes pour qui c'est difficile, qui vont consulter parce que c'est difficile, est-ce que pour ces personnes-là, bah du coup, c'est pas une maladie, s'il y a une gêne ou quelque chose comme ça? Donc c'est difficile de mettre ce mot ou pas sur l'autisme. C'est un trouble, en tout cas, c'est un fonctionnement qui est quand même atypique du système nerveux central, qui peut ou pas provoquer des gènes en fonction du degré d'atteinte, en fait, du trouble.
Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il y a plein de façons d'être autiste.
Il y a énormément de façons d'avoir un autisme ou d'être autiste. Il y a des personnes qui ne parlent pas, il y a des personnes qui parlent avec des phrases extrêmement compliquées, avec un phrasé extrêmement particulier, il y a des personnes qui ont des talents très spécifiques, il y en a qui n'ont pas ces talents, et puis les talents sont tous différents. Enfin, c'est vraiment extrêmement hétérogène. Il y a une très forte variabilité au sein de la population des personnes autistes. Finalement, enfin, les études que je fais et que d'autres font, finalement, il y a plus d'hétérogénéité dans ce groupe-là que dans la population générale.
Une définition de l'autisme, donc, entre autres, qu'il y a des difficultés dans la communication et dans l'interaction sociale. Est-ce que vous voulez nous en dire?
Bah, l'autisme, en fait, pour poser un diagnostic médical pour le coup d'autisme, on a besoin, les recommandations internationales disent qu'il faut que la personne présente des troubles de la communication et des interactions sociales, donc une espèce d'isolement par rapport aux autres, une incapacité à comprendre les émotions, à véhiculer des fois ses propres émotions. Et la deuxième dimension, c'est des comportements répétitifs, des intérêts restreints, donc focaliser son intérêt sur un sujet en particulier et ne parler que de ça ou parler essentiellement de ça, des comportements répétés, ça peut être différentes choses, quoi, des choses qu'ils font régulièrement, etc. Et donc ces deux dimensions doivent être présentes pour avoir un diagnostic d'autisme. Si on a seulement une des deux, du coup, il n'y a pas d'autisme. L'autisme, bah pour l'instant, les causes exactes, on les connaît pas, en fait. Y a probablement une composante un peu génétique, probablement des composantes environnementales, mais on ne sait pas exactement ce que ça représente. Ce qu'on voit, c'est que c'est un fonctionnement atypique du cerveau. Il va pas traiter les informations de l'environnement extérieur tout à fait de la même façon que chez les personnes neurotypiques, mais pour l'instant, on ne sait pas les causes.
Et en fait de fonctionnement atypique, donc là, toujours dans les articles qu'on peut trouver, hein, auxquels vous avez contribué, voilà, vous mettez en évidence une réaction particulière au son et à la voix. Est-ce que vous voulez nous expliquer ?
Oui, donc du coup, en fait, ça, c'est une étude qu'on a réalisée donc, chez des enfants. Donc nous, déjà, les études qu'on fait dans mon laboratoire, on fait ce qu'on appelle de l'électroencéphalographie, de l'EEG. Donc on met un bonnet sur la tête des enfants. On met du gel dans les électrodes et puis dans des trous. Puis après, on connecte des électrodes. Et ça nous permet d'enregistrer l'activité électrique qui est produite par le cerveau, puisque les neurones fonctionnent en produisant de l'électricité. Et du coup, on enregistre l'activité du cerveau quand les enfants écoutent soit des sons vocaux, soit des sons non vocaux. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, ils ont une réponse différente aux sons non vocaux. D'accord ? Donc, normalement, on a une espèce de signature cérébrale quand on entend un son vocal. On a une autre signature cérébrale quand on entend un son non vocal. Et les personnes autistes, les enfants autistes, en fait, montrent la... Il montre une réponse aux sons non vocaux qui est atypique. En général, effectivement, on recrute. Donc, on appelle ça le recrutement. Donc, on fait de la pub, entre guillemets, pour essayer de trouver des personnes sans autisme, d'abord pour participer en tant que sujet témoin, puis des personnes autistes qu'on recrute souvent au centre universitaire de pédopsychiatrie, mais aussi on peut avoir ailleurs. Et puis, et du coup, après, le protocole, c'est vraiment ça. Ils viennent, on leur met le bonnet EEG, ils s'assoient et puis ils écoutent des sons. Et nous, après, en fait, on coupe l'EEG autour des sons. On les moyenne tous ensemble pour avoir la réponse qui est produite dans le cerveau quand on entend ces sons. On leur montre le bonnet, on leur explique un peu ce qu'on va faire en essayant d'utiliser un langage plus facile. Donc moi, j'utilise souvent comme si l'analogie avec, enfin, quand vous avez un câble électrique, par exemple, il y a un peu d'électricité qui sort du câble électrique quand il n'est pas hyper bien isolé. Bah, faut voir un peu le cerveau, un peu pareil en fait, comme s'il y avait, alors c'est pas des choses très fortes, du coup on amplifie. Et puis en fait, après, il y a quelque chose qui est assez fun, c'est que quand on met le bonnet, en fait, on enregistre aussi l'activité musculaire et du coup, les enfants peuvent voir sur l'écran ce qu'ils produisent en fait. Donc si par exemple ils voient leur EEG et puis on leur dit de cligner les yeux et puis ça va se mettre en face sur l'écran. Donc du coup, ça leur donne un petit jeu aussi. Ils voient ce qu'on enregistre et ce qu'on voit et ce qu'ils peuvent faire en fait. Toutes nos études, on doit passer par une demande auprès des comités de protection des personnes, une demande d'éthique. Donc on écrit le protocole, il est lu par les comités de protection des personnes, qu'on appelle aussi les CPP, qui nous donnent l'autorisation de le faire ou pas. Et puis du coup, les parents signent l'autorisation. C'est les parents qui donnent le consentement, en fait. Donc les parents signent le consentement et les enfants donnent leur... ils disent qu'ils sont d'accord, quoi. Donc ils signent pas, puisqu'ils peuvent pas signer. Mais on leur demande s'ils sont d'accord. D'ailleurs, souvent non, il y a des enfants... témoins qui veulent pas le faire, il y a des enfants avec autistes avec qui ils veulent pas le faire ou ils n'arrivent pas à le faire. Pour mettre le bonnet, c'est très compliqué puisque des fois ils ont des sensibilités tactiles, des sensibilités quand on s'approche d'eux, donc du coup on peut pas le faire. Donc dans ce cas-là, on fait sur d'autres enfants. Alors on peut adapter dans une certaine mesure, mais pas trop, parce qu'en fait nous, en fait, on met c'est vraiment un bonnet, il y a les 64 d'un coup, donc en fait on met les 64. Mais par exemple, il y a des enfants, le bonnet, ça va pas le faire. Donc, soit on les familiarise avec l'étude et le bonnet en les faisant revenir plusieurs fois. Soit, si vraiment c'est trop dur, bah, on les laisse tranquilles, on les fait pas.
Voilà, donc l'idée, c'est pas non plus d'embêter.
Ah bah non, on n'embête pas les enfants. Mais ils le font que s'ils ont envie.
Mais ça veut dire qu'en plus, est-ce que s'il y a un stress dû à ce bonnet ou quelque chose, ça peut modifier les données que vous collectez ?
Je pense pas, parce qu'en fait, comme souvent, on compare deux conditions. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les deux conditions. Donc, du coup, quelque part, s'il y a le stress, ça va être le même sur les deux conditions. Après, ça dépend du niveau du stress. Les enfants autistes, s'il y a du stress, ils mettent pas le bonnet, en fait. Il y en a trop. Et sinon, après, en fait, comme moi, je travaille sur les sons aussi, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'ils regardent un film en même temps, ce qui les occupe, ce qui permet qu'ils ne bougent pas et ce qui permet que, du coup, ça de relaxer aussi, je pense.
Eh bien, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette méridienne avant de continuer notre échange avec vous, Marianne Latinus. On va écouter un peu de jazz. Voilà, on va écouter quoi donc ? On va écouter Erhel Besson sur Radio Campus Tour. On se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Isabelle Besson sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne. Élodine, tu avais des questions à poser à notre invitée Marianne Latinus.
Alors oui, je voulais revenir sur donc l'étude que vous faisiez par rapport au son, à la perception des sons. Et donc, comme vous le disiez précédemment, vous faisiez écouter des sons à la fois vocaux et des sons non vocaux, et vous remarquiez que pour les personnes autistes, il y avait une réaction différente par rapport aux personnes dans le champ général. Je ne sais pas trop comment appeler les...
la population générale,
voilà.
Dire,
et
ouais.
Donc je me demandais, dans votre étude, quel genre de sons non vocaux, par exemple, vous pouviez faire passer, parce que je pense à la musique ou à des bruits. Moi, je pense à ces choses-là qui sont quand même très singulières ou très différentes. Donc je me demandais quel genre de sons vous pouviez faire écouter.
Donc, du coup, ça dépend des études. Donc dans l'étude dont parlait Mélissa, on utilisait des sons vocaux variés, donc qui étaient soit du langage, soit des productions vocales comme des cris, des raclements de gorge, etc. Et de l'autre côté, les sons non vocaux pouvaient être des bruits de la nature, des bruits de voiture, de téléphone, etc. Donc là, l'idée, c'était vraiment de séparer, d'avoir des catégories assez global et qui prennent plein de sons en même temps. Après, il y a d'autres études en fonction de nos hypothèses où on va faire plutôt voix versus musique, par exemple, parce que finalement, la voix et la musique, en termes de structure acoustique, elles sont plus similaires, donc peut y avoir des questions qui sont plus intéressantes ou plus fines, en tout cas, à adresser avec ça.
D'accord, oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que... Difficile à penser de mettre, par exemple, un bruit de chaise au même niveau que de la musique ou qu'une symphonie ou je ne sais quoi.
Mais ça dépend de quelque part l'expertise que la personne a aussi sur ça. Mais comme l'idée, c'est vraiment que dans la population générale, hors personnes qui sont très fortes en musique ou très fortes en chant d'oiseaux, en fait, on va avoir la voix qui va mettre en jeu des traitements particuliers parce que c'est hyper important dans les interactions sociales, pour la reconnaissance de l'identité, pour la reconnaissance des émotions, la compréhension du langage. Et puis de l'autre côté, les autres sons qui véhiculent moins d'informations qu'on a besoin d'extraire, même si elles peuvent faire produire des réactions. On a besoin d'extraire moins d'informations de ces autres stimuli, en fait.
D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez remarqué que, contrairement à la population générale, les personnes autistes avaient la même... appréciaient de la même manière recevaient de la même manière les sons à la fois vocaux et les sons à la fois non vocaux.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, ils traitent de la même façon. Donc, quelque part, leur cerveau, ça veut dire ils répondent de la même façon qu'ils entendent une voix ou qu'ils entendent pas ou qu'ils entendent un bruit de voiture. Et donc l'idée qu'on a, c'est qu'en fait, au cours du développement, normalement, on va mettre en place des filtres qui vont permettre d'être quelque part meilleurs sur le traitement des sons vocaux et puis mettre un petit peu de côté les sons non vocaux puisqu'ils deviennent moins importants. Et l'idée, c'est que dans l'autisme, ces filtres ne se développeraient pas et donc tous les sons deviendraient traités au même endroit. Et c'est pour ça qu'au niveau de ce que nous, on enregistre en surface, on a la même réponse cérébrale.
Est-ce que ces filtres, ils peuvent s'apprendre ou est-ce que c'est impossible?
Quelque part, ils s'apprennent, en fait, dans la population typique. En fait, on n'est pas sûr. Moi, je pense qu'en partie, ils s'apprennent. C'est-à-dire que quand vous êtes un bébé et puis un enfant, vous entendez beaucoup de voix, vous apprenez qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Donc, vous développez ces espèces de stratégies qui vont permettre d'aller plus vite, d'aller plus directement là où on a besoin. Donc, c'est un apprentissage, même si c'est pas un apprentissage, comme on dit, volontaire quasiment. Alors que dans l'autisme, il n'y aurait pas ça. Et du coup, je pense j'essaie de développer, de faire des études qui permettraient peut-être de développer des nouvelles thérapies qui permettraient d'apprendre, en fait, à justement aller vers ça. Donc, il y a plusieurs thérapies qui essayent d'aller vers ça. Mais je ne sais pas si pour l'instant, elles marchent complètement. Et je pense qu'il faut réfléchir à d'autres façons de le faire. Mais essayer d'apprendre... à filtrer et comment on fait pour filtrer, ce serait des stratégies thérapeutiques assez bien pour aider les enfants avec autisme. C'est l'idée de profiter de la plasticité cérébrale. Donc le cerveau, c'est pas quelque chose qui est figé et ça bouge pas, quoi. Enfin, de la naissance jusqu'à la mort, le cerveau, il est plastique, il bouge, etc. Et donc on pourrait profiter de cette plasticité pour réapprendre aux personnes avec autisme là, comment utiliser, comment fabriquer ces filtres, comment peut-être, ou leur donner directement quelque part les filtres et ensuite essayer de voir s'ils arrivent à les utiliser. Parce qu'il y a tellement de... Si on part de l'idée qu'il y a ces filtres, il faut arriver à les construire, il faut ensuite arriver à les utiliser. Donc il y a beaucoup d'étapes. Pour l'instant, on ne sait pas forcément à quel niveau, en fait, c'est différent. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont peut-être... Ils marchent. Il y a quelque chose qui ne marche pas, mais on ne sait pas s'ils ne sont pas construits ou s'ils ne sont pas capables d'être utilisés. Peut-être que ça dépend du profil de la personne avec autisme aussi. De toute façon, les études qu'on fait, on essaie toujours de voir si elles peuvent aider au diagnostic. Donc, il y a pas mal de projets au niveau de l'équipe qui font ça. Donc, il y avait une étude qui a quelques années maintenant où ils montraient qu'il y avait, dans un autre protocole, enfin, il y avait une différence entre les enfants autistes et les enfants non autistes et qui peut être utilisé comme aide au diagnostic. Puis, il y a pas mal d'études en cours. Notamment, il y a un essai européen qui s'appelle M2Trial, dans lequel, justement, on fait de l'EEG pour essayer d'identifier des marqueurs un peu électrophysiologiques qui permettraient de différencier, d'aider au diagnostic des enfants avec autisme. Ouais. Donc, toutes les études ne permettent pas de donner un biomarqueur, mais on essaye, il y a certaines études qui permettent de le faire. Et puis, quand on voit l'hétérogénéité, je ne sais pas si on pourrait...
Et en tout cas, il y a parmi tous les outils que vous utilisez dans vos études, il y en a un autre qui se concentre sur les mouvements oculaires.
Oui.
Vous voulez nous en dire plus ?
Alors, en fait, on utilise une technique qui s'appelle l'eye tracking, qui permet donc d'enregistrer le mouvement des yeux et également le diamètre de la pupille, en fait, parce qu'en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, la pupille réagit différemment, puisqu'elle représente en fait notre ressenti intérieur. Et donc là, alors sur l'eye tracking, donc vraiment dans le suivi oculaire, on a fait des études où on a regardé donc la perception visuelle et comment les personnes avec autisme scannent leur environnement en fait. Et on voit alors il y a les très vieilles études qui montraient que quand vous présentez une image avec une scène sociale, les personnes typiques vont regarder directement les visages, etc. Et les personnes autistes ont tendance à pas moins regarder les visages. Et en fait, nous, on a fait une étude où on a montré que ils font des saccades parfois plus rapides vers un endroit, mais des fois un peu moins précises. Et pas quand c'est les visages. Donc pareil, on voit une différence entre les visages et des stimuli qui sont non sociaux. Toujours entre les deux. En fait, quand il y a un stimulus social, les personnes neurotypiques, elles vont quasiment tout de suite et de manière très précise vers le stimulus social, et c'est moins le cas des personnes avec autisme.
Quand même, de nombreux outils que vous utilisez, je vois qu'il y a aussi l'IRM. Donc là, comment vous utilisez l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRM-F.
Donc l'IRM, c'est comme un IRM qu'on fait en clinique, sauf que nous, du coup, on essaye d'aller voir le fonctionnement du cerveau de manière très simple. On regarde juste une autre image qui permet de regarder différents paramètres. Et après, sinon, le principe, c'est toujours le même. On présente des stimulus, donc variés, et on regarde comment le cerveau il traite différemment une voix ou un stimulus non vocal ou... un visage et un stimulus non-visage, etc. Et après, les études en IRM, chez nous à Tours, c'est surtout, on les fait chez les adultes. Et chez les adultes qu'on dit de plutôt bon niveau, parce que tolérer d'être dans l'IRM, etc., c'est pas facile, en fait, pour tout le monde. Il y a plein de personnes, même neurotypiques, qui aiment pas trop. C'est quand même un petit tube dans lequel on est enfermé, donc...
Et là, je vois que vous travaillez également sur un projet là, qui s'appelle « Projet de la musique à la voix, représentation des sons dans l'autisme ».
Du coup, justement, ce projet-là, donc ça, c'est un projet qui a été financé par la Fondation John Bost. Et ça, c'est justement le projet que je voulais faire. Donc, j'ai pas fini d'acquérir les données, mais dont le but, c'était justement de voir la mise en place de ces filtres, en fait. Et donc d'étudier comment ces filtres se mettent en place. En fait, donc ce qu'on a fait, c'est que on a créé une voix qui n'existe pas en mélangeant la hauteur de la voix d'une femme avec le timbre de la voix d'un homme. Et l'idée, c'est que le cerveau, pour lui, c'est hyper bizarre, se stimuler, et du coup, il va répondre très fortement. Si il sait ce que c'est qu'une voix normalement. C'est-à-dire s'il sait que normalement, on a la hauteur d'une voix de femme avec le timbre d'une voix de femme. Et donc, ça veut dire qu'on a une représentation de ce filtre, en fait, un petit peu. Une voix, ça doit être comme ça. Ok, si on part avec l'analogie visage, peut-être c'est plus facile. En fait, on sait qu'un visage, ça doit ressembler à un smiley. On le sait parce qu'on a vu plein de visages et on est capable d'extraire le smiley. Mais si on est, donc l'idée, c'est de voir est-ce que dans les personnes avec autisme sont capables de voir ce smiley et de voir que bah, si j'ai mis le nez au-dessus des yeux, bah, c'est plus un smiley en fait. Et donc si je mets le nez au-dessus des yeux, mon cerveau il va dire ah non mais ça c'est pas un visage. Donc on va avoir une réponse plus forte.
Donc là, ça dit, là, c'est pas une voix, en fait.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est pas une voix, ou en tout cas, la voix, elle est bizarre. C'est pas comme ça qu'elle devrait être. Mais pour pouvoir dire ça, il faut savoir que la voix, c'est organisé d'une certaine façon, en fait. Et donc, du coup, et dans ce protocole, on compare, du coup, la voix et la musique aussi, justement, parce qu'il y a certaines études qui montrent que les personnes avec autisme, ou en tout cas certaines d'entre elles, ont plutôt tendance à avoir l'oreille absolue. Elles sont meilleures, des fois, dans le traitement de la musique, etc. Et donc, ça nous, d'étudier les deux en parallèle, ça va nous permettre de voir si ils sont capables de construire ces filtres. C'est juste qu'ils n'arrivent pas pour la voix ou s'ils n'arrivent pas à les construire du tout, même pour la musique, en fait.
Quand même, encore une fois, une grande séparation entre les sons vocaux et les sons musicaux. Parce qu'on pourrait se dire qu'une personne autiste ou pas, d'ailleurs, qui a une très bonne oreille musicale ou même une oreille absolue, pourrait ne pas forcément avoir de problème non plus avec les questions de timbre de voix, parce que c'est des choses qui... Enfin, ça stimule l'ouïe. Et y a tout de même une différence avec les sons vocaux. Et, enfin, à partir du moment où ça touche le social, c'est là que ça pose problème.
En fait, c'est pas... Enfin, alors du coup, les résultats de cette étude, je l'ai pas encore. C'est assez difficile à expliquer, mais le truc, c'est pas de traiter le timbre tout seul, en fait. C'est vraiment l'idée de joindre ensemble deux informations et de dire que c'est la conjonction de ces deux informations qui fait que c'est une voix. Et que ces deux informations, c'est vraiment comme le smiley, c'est-à-dire que des yeux tout seuls, ça fait pas un visage. Un nez tout seul, ça fait pas un visage. Mais deux yeux au-dessus d'un nez, au-dessus d'une bouche, ça fait un visage. Mais si la bouche, je la mets au-dessus des yeux, bah là, j'ai plus de visage non plus. Et en fait, y a pas mal d'études qui montrent que les personnes neurotypiques, elles traitent globalement le stimuli. Donc elles prennent tout et elles voient les deux yeux, le nez et la bouche. Dès que la bouche, elle va être au mauvais endroit, boum, on va dire, oula, ça c'est pas normal. Mais les personnes autistes, il y a les hypothèses, c'est qu'elles traitent petit morceau par petit morceau. Donc du coup, quand la bouche elle est pas au bon endroit, bah, on voit pas que c'est pas un visage, parce qu'en fait il y a tous les petits morceaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, l'idée c'est de comparer ça. Et normalement, ces processus-là, ils sont décrits dans la population générale pour les stimuli sociaux, pas pour les stimuli non sociaux, sauf pour les personnes qui ont une expertise. Si vous avez une expertise en musique, vous pourriez le faire. Les gens qui ont une expertise dans la reconnaissance des oiseaux, ils font un peu la même chose. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a utilisé la musique aussi, parce que du coup, il y a quelques études qui montrent que peut-être les personnes autistes seraient capables de le faire dans la musique. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir dans la population de sujets contrôle, qui ne sont pas autistes, des personnes qui ont une expertise musicale ou pas. Donc on leur demande aussi pour savoir quelle est leur expérience avec la musique. De groupes. Ce qu'on voit, c'est que les personnes avec autisme, elles montrent aussi un trouble pour l'extraction des émotions. Mais après, il faut voir un peu la perception comme... C'est un peu simplifié de dire ça, mais comme un espèce de traitement en série des informations. Donc, on commence par des informations de bas niveau, puis on les intègre, et puis etc. Et puis ensuite, on va aller chercher l'émotion. Ça prend pas très longtemps, et puis des fois, il y a des courts-circuits. Globalement, oui, en fait, on peut se dire que si on n'arrive pas à traiter le visage, bah, ça va être plus dur d'aller traiter l'émotion qu'il y a derrière.
Alors, moi, je me demandais comment ça se passait quand il s'agissait de musique dans laquelle interviennent la voix, donc des chansons.
Alors, du coup, ça, on ne fait pas.
D'accord.
Pas pour l'instant, parce que du coup... Après, c'est une question qui est très intéressante, parce qu'en fait, quand on chante... Enfin, moi, j'avais une hypothèse sur la voix qui pouvait être que... Enfin, vous savez, dans la voix, donc il y a les fréquences de la voix, donc les cordes vocales qui vibrent, ça fait une fréquence. Après, on a les harmoniques, et Et du coup, il y a un paramètre qu'on appelle le ratio harmonique sur bruit. C'est un peu la quantité d'énergie qu'il y a dans les harmoniques par rapport à la quantité d'énergie qu'il y a dans le bruit. Et les voix, nos voix à tous, elles sont plus ou moins, elles ont un ratio harmonique sur bruit qui est plus ou moins différent. Si vous voyez la voix comme celle de Marilyn Monroe, qui a un ratio harmonique qui est peut-être plus assez bas, puisqu'elle a pas mal de bruit du fait qu'elle laisse passer de l'air. Et du coup, j'avais une hypothèse sur ça, que peut-être c'était à cause de ça. Et la voix chantée, c'est intéressant parce que souvent, la voix chantée, en fait, on augmente les harmoniques et finalement, il y a moins des fois de bruit aussi dans la voix. Donc c'est intéressant à utiliser, mais ça reste de la voix du coup.
Thank you.
propose Mary Stanley de l'album Schubert in Love. Alors sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio, Marianne Natinus. Vous êtes chargée de recherche à l'INSERM et Elodine Oex, donc qui est étudiante à l'école des Beaux-Arts. Comment réagit un cerveau à la radio en fait, aux voix de la radio?
Bah ça c'est très intéressant justement sur l'apprentissage de comment on reconnaît alors. La question de l'identité de la voix, c'est pareil, on ne sait pas forcément de quels sont les mécanismes qui font qu'on reconnaît, mais il y a eu des études, mais j'avoue, je ne connais pas forcément les résultats sur justement la reconnaissance des voix de radio, parce que c'est hyper intéressant les voix de radio, parce qu'on connaît les gens et on ne connaît pas leur visage. Donc c'est vraiment un des rares éléments où on apprend la voix uniquement. Et effectivement, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend à reconnaître ses voix. Moi, j'ai travaillé sur la reconnaissance de l'identité avant chez les personnes neurotypiques. On présentait des petits échantillons de voix et on voit que en fonction des gens, il y a une très forte variabilité. On arrive à apprendre en fait à reconnaître une voix. Et on ne sait pas trop. Je pense que c'est la même chose. On met en place des filtres qui vont permettre d'extraire vraiment ce qu'on va appeler la signature vocale d'une personne. Quelque part, chacun d'entre nous a une voix qui est particulière, qui représente, qui est aussi caractéristique, enfin, qui dépend aussi de son anatomie faciale. Et donc, cette signature vocale, on peut l'apprendre, en fait, en essayant d'extraire dans plein d'échantillons de voix de la personne. On voit tout ce qui est toujours un peu commun pour essayer de dire qu'on va reconnaître cette personne-là.
Alors, ça veut dire que une signature vocale, c'est-à-dire qu'au-delà de la morphologie de la personne, peut-être qu'on entend son histoire, quelque part.
Je pense qu'elle est aussi effectivement modifiée par son histoire. Donc, il y a la morphologie, mais aussi ça représente les... Bah, de toute façon, c'est en lien avec le cerveau, la capacité de contrôler les cordes vocales. Et donc, effectivement, ça représente son histoire. Et puis, il y a de plus en plus d'études qui montrent que... Également, par exemple, dans la voix, pourrait y avoir des indices sur les troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme, etc., qui pourraient être utilisés pour aider au diagnostic aussi d'autisme.
Et ça pourrait être quoi, par exemple, ces marqueurs dans la voix ?
Alors, il y a quelques études qui montrent des différences significatives, donc, enfin, qui montrent que, par exemple, la fréquence fondamentale, donc juste la vibration, la hauteur de vibration des cordes vocales, est pas la même entre les personnes autistes ou les personnes non autistes. Mais en termes de fiabilité, les études ne montrent pas des scores hyper forts. Mais du coup, ce serait pas un paramètre, en fait. Ce serait une combinaison de paramètres. Donc, ce serait la fondamentale, les formants. Donc, les formants, c'est les harmoniques qui sont amplifiées quand on passe dans le conduit vocal, en fait. La texture, enfin le ratio harmonique sur bruit, donc la quantité de bruit qu'il y a dans la voix. Donc c'est une combinaison de tout ça qui pourrait peut-être permettre à faire du diagnostic.
On veut dire, si on veut s'intéresser peut-être de plus près à l'identité vocale, est-ce que vous, il y a peut-être des contenus qui vous semblent abordables pour un grand public?
Une orthophoniste qui est aussi maître de conf à Marseille, qui écrit souvent des livres, mais j'avoue, je les ai pas lus. Il y en a un qui s'appelle Ma voix et moi. Johanna Rivis, elle s'appelle, je crois, mais qui, du coup, elle fait de la vulgarisation sur les processus de la voix, etc.
Merci beaucoup à vous d'être venus dans cette émission, de nous avoir accordé du temps et d'avoir patiemment répondu à nos questions.
Merci à vous de m'avoir invité.
Voilà, merci aussi, Elodine, d'avoir participé à cette émission. Et nous allons nous quitter, chers auditeurs. Eh bien, on va partir du côté du Japon, puisque nous allons écouter Sakoto Fuji. Et elle est ici avec l'ensemble Minyo. On écoute ça dans La Méridienne. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, bien sûr, à l'écoute de nos non moins excellents programmes. Après ça, vous écouterez la rediffusion de Sortez. S'en suivra le Flash Info RFI. Et bien sûr, plus tard dans la journée à 18h, ce sera l'heure du Ghetto Blaster, présenté par Sébastien sur l'actualité musicale. Bonne journée à tous, à l'écoute de nos programmes.
Est-ce que Sarkozy est beau?
Oui,
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 oui.
Oh oui, il est beau avec ce costume.
Oui.
Sarkozy, ouais. Il l'a vu une fois à la télé dans les guignols.
Dans les guignols, il est beau.
Ouais.
C'est un beau guignol, oui.
Il est beau avec ce costume.
Bayrou.
François Bayrou, il est beau.
Ah bon.
Il est gentil, il parle bien en télévision. François Bayrou, parce qu'il est beau, il parle bien.
Il est beau. Il
plus, parle plus de Nicolas Sarkozy.
Mieux.
Moi, oui, j'aime. Mieux. Il est sexy.
Oh.
Mais je suis d'accord avec Paola, avec la jeune fille, je suis d'accord. Bayrou, il est beau avec ce costume, il est magnifique. Un costume blanc, un manteau bleu, magnifique. Il se mise tout, le monsieur.
Oui.
Il est beau, ce costume.
Il parle bien au télévision.
Il parle bien.
Arnaud, est-ce que tu as une
non,
idée
c'est
de
fini.
Qui serait le prochain président de la République?
Non.
Oh, 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 oh. Qui tu aimerais?
Je sais pas du tout.
Oh, oh, oh.
Chirac. Bernadette, Chirac.
Ah, Bernadette.
Bernadette, elle est jolie, Bernadette. Ah. Elle cravate tout ça à la poste, c'est son métier aussi à la poste. Il y a une émotion, Bernadette. Ouais.
C'est son métier, oui.
C'est son métier, ouais.
Et toi? C'est Ségolène Royal.
Je serais plus Sarko.
Ah, tu serais plus Sarko. Ah, oui. Ah, bon.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui se déplace, qui fait pas que de la théorie. Au moins, il va sur le terrain, le coco.
Ah bon? Ah.
Donc, je pense que lui, il pourrait bien nous défendre.
Toi, tu voulais voter pour Dominpa.
De Villepin.
Tu aimes beaucoup le président.
Moi, je veux beaucoup.
C'est un peu comme le foot.
C'est un peu comme le foot, un petit peu.
C'est-à-dire?
Entre le choix d'une équipe de foot et le choix d'un homme politique. C'est un peu...
Pareil.
Le choix s'effectue un peu de la même façon. Raisonné et irraisonné.
Et irraisonné?
Quel est ton candidat?
Arte Radio.com.
D'autant plus que t'es là pour me protéger.
Je te protège, Grégory, il est là. Tu l'as de toute façon. Et si Paula t'embête encore une fois, ça va mal aller. Grégory te défend.
Oui, bonjour, alors c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises.
Non,
mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
Alors, moi, je voulais vous parler d'un gros roman à dévorer qui s'appelle Hôtel Castellana de Rutas et Petis. Ce livre est totalement captivant parce que déjà, il nous entraîne dans l'histoire espagnole à Madrid en 1957, sous la dictature de Franco. Donc, pour l'histoire, en 1936, il y a une guerre civile en Espagne qui a opposé les républicains, le gouvernement en place. Et les nationalistes, donc dirigés par Franco et soutenus par Hitler, Mussolini. Il y a eu un coup d'État et les républicains finissent par se rendre en 1939 et ça amène à la dictature de Franco jusqu'en 1975, donc ça a duré quand même 36 ans, si je compte bien. Donc l'histoire, elle prend part dans ces années-là, avec tout ce qu'il y a de répression, de censure, de patrouille des forces armées de Franco, le poids de l'Église catholique, tout ce qui est aussi les droits des femmes qui sont vraiment restreints, donc ça parle de tout ça. Et l'auteur, en fait, elle s'appuie beaucoup sur des articles de journaux, des déclarations diplomatiques, et entre chaque chapitre, donc il y a vraiment ces extraits qui sont réels, donc c'est très documenté. Donc c'est un roman avec une forte empreinte historique, mais l'histoire, elle est vraiment romancée. C'est l'histoire de deux personnages qui vont se rencontrer au sein de ce fameux hôtel de Castellana qui donne son titre au livre. Donc c'est un hôtel riche, il représente vraiment le faste et le somptueux de l'Espagne, vraiment en opposition avec la souffrance du peuple à ce moment-là. Et le petit point, c'est que l'hôtel a été bâti avec le soutien économique américain. Et donc, il n'y a vraiment que les touristes américains ou vraiment les très riche espagnole qui loge là-bas. Et dans cet hôtel, donc, on découvre Anna, le personnage principal, qui est une femme de chambre. Donc elle vit un peu dans un quartier très pauvre de Madrid. Elle est chaperonnée, elle a très peu de droits, elle travaille vraiment sans cesse pour survivre. Et elle a subi la guerre civile, donc elle en garde vraiment des secrets. Et elle va rencontrer le deuxième personnage principal, qui s'appelle Daniel. Et lui, justement, c'est un Américain. Donc il vient en voyage en Espagne. C'est le fils d'un riche négociant en pétrole. Et il prend beaucoup de photos. Et ça va être, cette rencontre, ça va être la vision de l'Espagne vue par Anna, donc il la vit de l'intérieur, et de lui, de Daniel, qui a une vision un peu idéalisée au début. Et avec ses photos, justement, il va un peu changer sa vision. Et justement, l'histoire, elle se centre sur... grâce à ces photographies, ils vont découvrir un fait divers qui a eu lieu... dans ces années-là, donc un peu fait scandale, puisque du coup il y a eu un procès assez récemment, en 2018, sur le vol d'enfants du coup des familles républicaines qui étaient volées et données à des familles entre guillemets plus respectables que Franco soutenait, enfin qui soutenait Franco. Pardon. Et donc il y a eu plus de 300 000 enfin, c'est un chiffre, voilà, on ne sait pas exactement s'il est vrai ou pas, mais du coup, plus de 300 000 enfants volés à ces familles. Et donc, tous les personnages qu'on va croiser, ils ont plus ou moins un lien avec cette histoire. Voilà, c'est un très beau roman. Enfin, moi, j'ai tout aimé, les descriptions, la romance aussi, parce que du coup, bon, je ne spoil pas, mais il y a quand même une romance. Voilà. Et c'est très lent, le rythme est très lent, mais c'est justement pour évoquer un peu ce poids du silence des familles qui osent rien dire et des secrets qui sont dévoilés. Voilà, un très beau roman que je recommande.
Alors merci pour cette chronique. Donc j'ai évidemment quelques questions. Alors il est question d'un photographe, de scènes, de paysages qui sont décrits. Est-ce qu'on, comment dire, quand on lit ce livre, est-ce qu'on voit les scènes? Est-ce que c'est décrit suffisamment précisément pour qu'on arrive aisément à se figurer, en fait, est-ce que c'est une écriture qui fait scénario de cinéma?
Alors je ne sais pas si c'est vraiment une écriture cinématographique, mais en tout cas, il y a vraiment des descriptions des rues de Madrid à cette époque-là, des costumes, ce genre de choses, et aussi des photographies, parce que du coup, à chaque fois qu'il va prendre une photo, il va les développer, et on a vraiment une belle description de tout ça. On est vraiment projeté et immergé dans cette époque et avec les personnages. Donc c'est vraiment chouette.
Comment est le rapport à la couleur? Puisque le photographe, donc il y a quand même quelque chose de central autour de la photo en noir et blanc, je pense. Est-ce qu'il parle aussi des couleurs sur l'environnement, ou est-ce que en fait le livre a l'air en noir et blanc?
Non, en fait la photographie, elle va surtout être... tout de suite dirigé vers un propos un peu journalistique, parce que du coup, ce qu'il va prendre, ça va être des moments un peu... Sans le vouloir, il va capter des scènes qu'il ne devrait pas, notamment de torture ou de répression, par exemple, due aux forces armées. Et du coup, peu importe en fait la couleur, parce que du coup, le propos, c'est... ce qui va compter vraiment, c'est l'image qu'il va réussir à photographier.
Une écriture... documentaire, journalistique. Ouais. D'un autre côté, on entend parler d'une romance. Alors on pourrait dire, oh là là, pff, une histoire, un homme, une femme, oh là là. Et en fait, est-ce que, comment dire, ce rapport documentaire, un peu, est-ce que ça sauve ce qui pourrait être un peu cliché?
Mais c'est pas cliché du tout.
C'est beau, l'amour.
Ouais. Non, la romance, elle est pas du tout mièvre. Elle est justement, mais ça se fait très lentement, et du coup, c'est pas... Enfin, c'est vraiment suggéré aussi. Et ce qui est beau, c'est le mélange des deux, entre cet aspect très réel, très documentaire, en fait, et en même temps, ces moments qui sont vraiment de la pure fiction. Et c'est ce mélange des deux qui fait que c'est captivant.
Je trouve cette histoire de photographe complètement naïf, qui saisit malgré lui une scène hautement problématique, on va dire. Mmh. Moi, ça me rappelle beaucoup l'histoire de Blow Up, le film d'Antonioni, on a c'est dans Londres des années 60 où un photographe, pour se détendre, un professionnel, fait des photos dans un parc, il voit un couple. Et la femme s'aperçoit qu'il a pris des photos et elle a l'air très préoccupée de savoir ce qu'elles vont devenir. Donc bon, du coup, lui, il ne fait pas plus attention. Et quand il développe les photographies, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Et en agrandissant les images, il va s'apercevoir qu'il a malgré lui photographié les préparatifs d'un meurtre. Et du coup, moi, ça me rappelle un petit peu ça, quoi. Cette mise en perspective de la réalité. Et je trouve que de ce que tu en as dit, l'artifice narratif qui consiste à montrer plusieurs facettes de la réalité à travers les regards de deux personnages dont les horizons et les parcours sont complètement différents, est assez habile. Et puis, cette fameuse romance qui les fait se réunir, on pourrait dire qu'à deux, ils forment un regard plus objectif, conscient des beautés, mais aussi des drames d'une toile de fond qui leur est commune. Finalement, au niveau littéraire et philosophique, c'est assez beau.
C'est de la photo, c'est pas du cliché.
C'est beau.
La punchline. Est-ce que tu veux nous rappeler le titre, l'auteur et l'édition ?
Oui, c'est Hôtel Castellana de Ruta Sepetys et c'est publié chez Gallimard Jeunesse.
Merci.